1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une nouvelle émission Le Grand Tout, réalisée aujourd'hui en enregistrement au studio 202 de la Maison des Associations. Une émission qui nous fera entendre un peu de jazz pour débuter avec Roy Haynes, c'est une belle réédition. On entendra notre disque d'or de la semaine, les Portugais Them Flying Monkeys qui reprennent Jacques Dutronc. Nous irons au festival Travelling grâce à Swazi Globaï qui a pu rencontrer Théo Le Goff, chargé de coordination de l'accueil des publics au festival Travelling qui commence bientôt le 4 février, direction Stockholm. Et puis on pourra aussi évoquer un événement des Tombées de la Nuit en partenariat avec le festival Waterproof. Ça va être dimanche, Save the Last Dance for Me d'Alessandro Scaroni. Vous pourrez redécouvrir une danse italienne, peut-être pas mal oubliée, et puis on ira aussi découvrir à nouveau deux titres des albums Ferrarock de la semaine, ceux de Aino Salto et de Murto Oslo. J'ai oublié, puisqu'on est mercredi, Swazi Globaï à nouveau pour nous parler bouquins aussi, avec Bouquet Garni numéro 14. Mais on commence directement l'émission avec Roy Haynes. Je vous en reparlerai juste après de ce batteur brillant qui a accompagné un temps John Coltrane, par exemple, ça c'était la fin des années 1960, et puis la sortie en 1971 l'album Hip Ensemble. C'est un mélange brûlant de jazz, un poil free de funk et de groove complètement irrésistible. Je propose d'abord ce titre, un morceau bonus, un peu difficile à trouver, Roy's Tune, et puis on en reparle tout à l'heure. C'était sorti à l'origine en 1971 sous le label Mainstream, mais là c'est le label We Want Sounds qui réédite ça le 28 février prochain. Bonne émission. We'll be right back. C'était à l'instant Roy Haynes, éminent batteur jazz qui a pu jouer aux côtés de Charlie Parker, de Miles Davis, de Lester Young, et a commencé au début des années 1950, et puis a été en 1971 un des pionniers de ces mélanges funk, jazz, un poil free jazz même, sur certains titres de cet album. C'est sorti sur le label Mainstream à l'origine, et c'est réédité là par le label We Want Sounds le 28 février prochain. À suivre le titre Satan's Mysterious Feeling, et puis on écoutera les Flying Monkeys juste après pour une reprise, eh bien, d'un anti-yéyé français, on dira. We'll be right back.
sans sou, ça les prend comme ça d'un coup. Ils ont besoin d'un petit chouchou, d'un ermite, d'un grand bijou, d'un truc en plastique, en caoutchouc, une petite chose pour faire joujou et qui flambe vite comme Amadou. Les gens s'en foutent, les temps s'en foutent, les temps s'en foutent, les gens s'en foutent. Yo yo, oula ou, et Scooby Doo, porte clé et porte chou.
Vous l'avez reconnu, les gens sont fous, les temps sont flous. C'était vrai à l'origine quand le chantait Jacques Dutronc. Ça l'est toujours dans cette reprise par le groupe portugais Them Flying Monkeys. C'est notre disque d'or de la semaine, album Best Behavior, sorti à la fois par un label portugais, Gig Rocks, et puis par un label de Limoges, Only Lovers Records. Un rock indie assez fiévreux, avec quelques petites incursions électroniques. Très très bon album pour les Them Flying Monkeys. On les écoutera à nouveau deux fois pendant les deux émissions de la fin de semaine de Le Grand Tout, qui se poursuit maintenant, eh bien, du côté de Travelling, du côté de ce festival de cinéma retrouvé à Rennes du 4 au 11 février, qui s'arrête du côté de Stockholm. On va rencontrer Théo Le Goff, c'est Soisy Globay qui l'a rencontré, et puis il nous présentera aussi Théo Le Goff, en plus de présenter son métier, et il nous parlera du collectif Sous les écrans La Dèche. Mais pour débuter la séquence maintenant, un extrait de la bande originale du film de Bo Widerberg de 1967, Elvira Madigan, qui raconte la fugue amoureuse d'une funambule danoise et d'un lieutenant suédois. Un grand classique du cinéma suédois qui sera présenté en version restaurée le 4 février au cinéma Pathé. Voici un extrait de sa bande originale. Une bande originale qui a été empruntée à Wolfgang Amadeus Mozart. On écoute Geza Handa qui joue le concerto pour piano numéro 21. Extrait donc de la bande originale du film Elvira Madigan, à voir en ouverture de Travelling le 4 février.
Chargé de coordination de l'accueil des publics sur Travelling, c'est la quatrième année déjà avec l'assaut clair-obscur. Ce poste-là, bah, pour un peu situer mon parcours, j'y suis arrivé avec un premier stage que j'ai fait il y a quelques années au sein de l'association, justement en assistanat de production, qui est un stage que j'avais effectué avec la personne qui était à l'équivalent de mon poste actuel à l'époque. Qui m'avait beaucoup plu. À ce moment-là, moi, j'étais en licence de cinéma à l'université Rennes 2, un peu en recherche de parcours professionnel à la suite, puisque c'est un peu l'un des gros enjeux quand on suit des études de cinéma ou d'art de manière générale, de pouvoir situer justement les métiers qui peuvent déboucher par la suite. Et donc, en festivalier du Festival Travelling, j'avais candidaté spontanément et trouvé ce stage-là. Avant ça, j'avais suivi une licence de communication, qui avait été un peu l'un de mes atouts en arrivant sur le marché du travail, puisque le milieu professionnel de festival et de la culture est assez concurrentiel, puisqu'assez attractif au niveau des métiers et des possibilités que ça offre, autant culturellement que personnellement, au sein de son travail. Et donc j'avais voulu faire un double parcours pour avoir un peu plus de compétences transversales. Et après donc ce stage-là qui m'avait fait entrer à Travelling, suivi d'un autre stage en assistant artistique, pour le coup avec Anne Lehenaf, la chargée de programmation. Et l'année suivante, donc une opportunité de prendre ce poste de l'accueil des publics, quand il a été divisé, puisqu'avant c'était l'accueil général, et maintenant il y a l'accueil des publics et l'accueil des pros, puisque les métiers se diversifient en fonction des offres du festival qui s'étoffent un peu d'année en année. L'accueil des publics, donc c'est plusieurs missions et c'est l'une des richesses un peu de ce poste-là, moi, par rapport à mes autres contrats que je peux avoir aussi. La première mission principale, c'est la billetterie. Donc moi, je suis chargé de toute la coordination, la gestion un peu logistique et le paramétrage de la billetterie sur Travelling. Je vais pouvoir expliquer un petit peu plus, mais la billetterie d'un festival de cinéma, c'est un système un peu particulier puisqu'on ne gère pas forcément l'entièreté de la vente des billets. L'autre gros axe de ma mission sur ce festival, c'est la coordination des rencontres publiques, puisqu'on organise pendant le festival plusieurs masterclass, tables rondes, conférences avec des artistes invités. Pour situer le festival Travelling, c'est tous les ans une destination différente, avec donc cette année Stockholm qui sera invité pour représenter la Suède, mais pas que, puisqu'on a aussi plusieurs autres grandes sections sur le festival. Il y a par exemple à l'Ouest, pour le coup on a pas mal d'invités plus locaux. Et donc ces rencontres-là qui mixent un peu à la fois des invités suédois, à la fois des invités locaux, la transversalité. Je pense par exemple, on a cette année une conférence avec Nikki Lindros-Vandbar, qui est une réalisatrice suédoise d'animation, qui va réaliser son prochain court-métrage à...
Une partie à Rennes.
Son prochain film à Rennes, je sais plus si c'est un court-métrage. Donc Nicky Lindros Van Bark qui va réaliser son prochain film à Rennes. Donc, Travelling là, se positionne comme création de liens au niveau du public pour la connaissance de ce type de projet. Pour la partie billetterie, donc comme je disais, on a un système un peu particulier là où la plupart des festivals ou des événements vendent l'intégralité de leurs billets. En cinéma, on fonctionne avec les salles en partenariat. Donc nous, sur Rennes, on travaille avec Le Pâté, l'Arvor, le TNB et on organise nous-mêmes les séances à la salle du Tambour de l'université Rennes 2. Et on a également donc des salles partenaires de Rennes Métropole qui participent au festival également. Pour toutes les salles de Rennes Métropole qui sont en dehors de la ville de Rennes en elle-même, c'est les salles qui sont autonomes et qui appliquent leur propre tarification en partenariat avec le festival donc, qui gère entièrement leur billetterie. Là où les salles de Rennes Intramuros, elles pour le coup, ont des tarifs qui sont spécifiques au festival, mais gèrent aussi en interne la vente de ces séances. Donc moi ce que je vais piloter, ça va être plutôt la partie générale du festival. C'est-à-dire qu'on propose, pour avoir vraiment une approche festivalier et de permettre d'assister au maximum de séances possibles avec des tarifs plus attractifs, on vend des passes qui permettent l'accès à l'intégralité des séances ou des carnets de fidélité ou qui permettent d'avoir un tarif plus avantageux que le tarif classique quand on va directement dans les salles. Ce que je vais mettre en vente également, ça va être les ciné-concerts puisqu'on propose une partie musique et cinéma avec toujours des... Les ciné-concerts sont des artistes qui travaillent en partenariat avec l'Air Obscur sur les projets et avec d'autres acteurs culturels et qui reprennent un film et réinventent la musique pour proposer une nouvelle lecture de cette œuvre-là. Donc cette année, on en aura 3 qui seront payants avec un tarif à 12 et 9 euros et un qui sera gratuit, qui sera proposé au champ libre. On a notamment dans ces ciné-concerts un ciné-concert qui est L'Heure du Loup qui avait déjà été joué à Travelling en 2019 par Olivier Mélano et qui est repris cette année puisque c'est un film suédois emblématique et qui retrouve complètement sa place dans la programmation. Et cette année, petite particularité, il y a également en vente donc directement par Travelling un concert de J.J. Johansson et qu'on a choisi de mettre en payant après une longue discussion puisque J.J. Johansson est un artiste emblématique suédois qui a une carrière assez fructueuse et qu'on souhaitait accueillir. Et pour le coup, à Travelling, nous, les concerts qu'on propose, ils sont au Liberté L'Étage et ils sont systématiquement, ordinairement gratuits, puisqu'on souhaite vraiment proposer ces temps forts avec une accessibilité à un maximum de personnes. J.J. Johansson, c'est en partenariat avec les Tombées de la Nuit. On organise une journée dimanche à Rennes avec eux. Et ce concert-là, un peu particulier, on a décidé de le mettre en tarif payant pour... comme c'est un artiste qui est assez emblématique pour avoir une offre qui puisse correspondre aux réalités économiques du marché, mais à un tarif toujours accessible, donc on propose un prix exceptionnel de 9 euros, ce qui est rare, voire jamais vu pour un artiste de cette taille.
I follow on and I
aurez reconnu bien sûr le tube de J.J. Johansson, So Tell the Girls That I Am Back in Town. Vous le retrouverez en concert pendant Travelling le dimanche 9 février. On retrouve à présent Théo Le Goff, toujours interrogé par Soizig Le Bay. Je vous rappelle qu'il travaille au festival Travelling, qu'il est chargé de coordination de l'accueil des publics. Il nous parle maintenant des aspects les plus simples et les plus difficiles de son métier.
Qu'est-ce qui est facile, je commence par ça, c'est plus retrouver l'équipe. C'est un peu le grand bonheur de travailler en festival, c'est le fait d'avoir plusieurs contrats à l'année et de à chaque fois retrouver les mêmes personnes sur un projet, ce qui à la fois crée une nouvelle dynamique dans son année, puisqu'on retrouve, mais en même temps on approche une nouvelle édition et on a travaillé pendant plusieurs mois avec d'autres personnes. Donc là c'est revenir sur... des habitudes qu'on a parfois perdues et de les retrouver, côté un peu d'énergie collective qui est à la fois le plus facile et le plus enthousiasmant. Le plus facile également, c'est à mon sens la billetterie, ce qui peut paraître paradoxal parce que c'est le plus gros de mon poste, mais c'est un côté où il y a des logiques qui sont similaires un peu sur tous les événements qu'on peut organiser. Et le paramétrage d'une billetterie, bah, c'est des choses toutes bêtes mais auxquelles il faut penser. C'est par exemple, pour rentrer un peu dans des détails techniques, penser à la TVA, penser à l'horaire précis, penser à la création du billet. Plein de choses qui sont pas du tout compliquées à mettre en place mais qu'il faut juste penser, avoir des réflexes. Et qui finalement, une fois que ces réflexes-là sont acquis, ça devient quelque chose d'assez intuitif et même assez ludique à faire, puisqu'il y a le côté un peu presque créatif et puis enthousiasmant de se dire que ces billets-là qu'on paramètre, qu'on met en place, et ben ils vont servir à être mis sur un site pour que des gens puissent assister à des choses qu'ils ont envie d'aller voir. Donc ça, c'est le côté un peu plus simple. Je pense que le côté le plus difficile dans ces métiers-là, c'est peut-être les changements qui ont été opérés suite à la crise Covid, qui sont encore ressentis aujourd'hui. Et je pense notamment à l'organisation des rencontres, où ça a complètement modifié... Les deadlines et puis les enjeux qu'il y a autour de ça. Ce qui en soi n'est pas une difficulté mais qui change les habitudes, et c'est ça qui est le plus déconcertant parfois, c'est les délais d'organisation, là où certains partenaires sont toujours sur des délais très anticipés, d'autres en fonction des éditions, en fait ça dépend complètement du pays invité, peuvent être beaucoup plus dans des deadlines très serrés, soit par rapport à leur calendrier, soit tout simplement par rapport à des habitudes culturelles qu'ils peuvent avoir dans leur pays. Et c'est ça qui rajoute une difficulté de réussir à jauger quand est-ce que c'est pertinent de soit relancer, quand est-ce qu'au contraire c'est plus une forme d'impolitesse, de réussir à trouver un peu cette bascule entre à la fois bien anticiper le festival et rester dans un contact humain avec nos partenaires qui nous font le plaisir de venir sur l'édition et qui enrichit un peu ce parcours pour qu'il n'y ait pas seulement quelque chose de cinématographique en salle, ce qui est déjà très bien, mais d'avoir aussi le rapport des personnes au cinéma et un art qui leur plaît. Cette année, je dirais que ça a été un peu comme l'année dernière. Les grosses différences qu'on a pu ressentir au niveau de l'équipe, c'est au niveau des dates du festival finalement. Là où le festival Travelling à chaque fois se calque un peu sur les vacances scolaires. L'année dernière, les vacances scolaires étaient assez tardives et cette année, elles sont très tôt en février. Donc ça change complètement la manière d'approcher le festival et la préparation. Et ça a pu causer un petit stress, une petite attente au début de la préparation avec la volonté de bien tout anticiper, et qui finalement a aussi un côté bénéfique de finalement, à force de se dire qu'on va être en retard, on finit par être en avance. Alors pas sur tout, mais il y a encore des choses à faire, mais au moins ça a un peu toujours les deux côtés. C'est l'avantage aussi du côté festival et du côté équipe.
Tell the girls that I am back in town. Vous êtes intermittent du spectacle ?
Même pas intermittent du spectacle, c'est pour le coup l'une des difficultés qu'on rencontre dans les festivals de cinéma, puisque la plupart des métiers de festivals de cinéma ne peuvent pas à l'heure actuelle être concernés par le régime de l'intermittence, malgré le fait que ça corresponde tout à fait au type de métier. Je pense par exemple au mien, de manière un peu presque égoïste, mais en même temps je peux en parler. Je suis chargé de billetterie sur d'autres événements qui, pour le coup, pourraient me proposer le régime de l'intermittence parce que c'est du spectacle vivant pour la plupart. Sur Travelling, pour le coup, comme c'est un festival de cinéma, il n'y a pas la possibilité d'accueillir des personnes en équipe sur le poste de billetterie en intermittence. Ça ne peut pas rentrer légalement dans le cadre, ce qui fait que donc je suis au régime général, pour le coup, en CDD, et ce qui rajoute évidemment des difficultés économiques et logistiques pour les festivals et pour les salariés qui sont un peu dans le même cas que moi. C'est donc le collectif Sous les écrans l'Adèche qui est un collectif qui œuvre depuis plusieurs années pour sensibiliser le public qui, et c'est bien normal, méconnaît à l'heure actuelle les métiers du cinéma et ses difficultés, et également pour pouvoir permettre une des avancées sociales sur ce sujet-là. Donc ils ont mené une étude il y a quelques temps, une enquête avec plusieurs chiffres qui, à mon sens, sont assez pertinents et qui, même moi qui suis du métier et qui me doute un peu des enjeux puisque je les rencontre au quotidien, m'ont un peu frappé. Ce qu'ils établissent, par exemple, suite à cette enquête auprès de entre 2000 et 3000 personnes qui travaillent pour les festivals de cinéma, donc c'est assez conséquent.
En Bretagne ?
Pas forcément, pas que en Bretagne. Et notamment qu'au niveau des contrats et des statuts, seuls 14% des salariés de festivals de cinéma sont intermittents. Ce qui veut dire qu'il y a 12% d'indépendants, auto-entrepreneurs ou statut d'artiste-auteur, et 54% de salariés au régime général. Être salarié au régime général, ça veut dire que, par exemple, entre deux contrats, s'il n'y a pas de festival qui a lieu à ce moment-là, ou que par le nombre de personnes qui travaillent dans ce secteur, il y a une période de creux, ça veut dire qu'il n'y a pas de salaire. Ça veut dire qu'il y a des moments de l'année où les personnes qui travaillent en festival de cinéma n'ont pas un rond.
Vous n'êtes pas éligible à l'indemnisation ACEDIC ?
Alors, il y a des indemnisations, effectivement, avec Pôle emploi, mais qui prennent en compte, par exemple, c'est là les petites subtilités, le temps de congé payé qui n'est pas pris par les personnes qui sont en contrat, tout simplement par manque de temps et parce que les contrats sont, et c'est bien normal, mis au plus juste des réalités, des besoins pour les festivals. Et donc je prends mon propre exemple. Par exemple, il y a eu 3 mois depuis que je suis entré sur le monde du travail où j'ai travaillé. Et sur ces 3 mois, à chaque fois, c'était du temps cumulé de congés payés que je n'ai pas pris. Et donc pas d'indemnisation pour l'emploi à ce moment-là. Donc heureusement, il y a quand même le régime général qui permet d'avoir ce qu'on appelle la prime de précarité, mais qui porte bien son nom et qui n'a pas le nom de précarité pour rien. Et ce qui est assez intéressant avec leur étude également, c'est qu'ils précisent que 19% des salariés en festival cumulent plusieurs des statuts entre salariés, indépendants ou intermittents, ce qui montre bien le besoin d'une polyvalence presque à l'extrême au niveau autant administratif, de l'investissement personnel que ça demande pour pouvoir réussir à jongler, notamment sur le statut d'intermittent, ça demande de faire le nombre d'heures, donc plus des contrats supplémentaires afin de juste pouvoir tenir. Et dans cette même étude, ils établissent que 79% des personnes travaillent au moins pour 2 festivals, 79% des personnes déclarent exercer plus d'un métier, 47% au moins 3 métiers différents. Pour situer par rapport à une personne lambda, généralement, on est plutôt sur un métier qui peut durer. Alors, je sais que ça évolue de plus en plus. Il y a pas mal de... Alors, j'avais lu récemment, mais peut-être que je me trompe sur le chiffre, mais que globalement, les personnes changeaient de métier entre 3 et 5 ans, avec changement de métier peut inclure une évolution en interne. Là où, pour le coup, une personne qui travaille en festival peut changer 3 fois dans la même année de profession et donc de compétences, ce qui demande encore plus d'investissement personnel sur du temps qu'on n'a pas forcément. Et tout ça pour la modique somme au niveau de la rémunération qui est indiquée dans leur enquête. Pour 57% de ces 2000 à 3000 personnes, une rémunération mensuelle nette inférieure à 1700 euros net mensuels. Et ils précisent également, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, que 64% des sondés déclarent recevoir moins de 1000 euros d'indemnité entre leurs contrats par mois.
C'est quoi les revendications? Que faut-il faire pour que ça change?
La première chose qui est intéressante, c'est d'en avoir conscience, tout simplement, de ces réalités économiques, notamment pour le fait que, je pense à l'exemple de traveling, nous on essaie de proposer des tarifs les plus attractifs possibles, parce qu'on a vraiment à cœur que toutes les personnes, et peu importe leur portefeuille, puissent accéder à la culture. C'est vraiment l'un des éléments les plus primordiaux, et pour traveling, mais pour beaucoup, voire la majorité des festivals et des événements, tout simplement. Et là où il y a un exemple récent qui est assez frappant et qui a pu attrister énormément le secteur culturel, c'est ce qui s'est passé dans le Pays de la Loire, avec le vote récent du budget, ou plutôt le vote de l'absence de budget pour la culture, alors pas que. Il y a évidemment beaucoup d'autres impacts, je pense au sport, je pense à l'aspect social dans cette région qui a été complètement anéanti au niveau du budget et qui est passé dans une indifférence absolument générale, tout simplement par méconnaissance. Et c'est quelque chose qu'on comprend complètement. Personne n'est vraiment au courant des enjeux et des difficultés que rencontre le secteur. Donc une annonce de baisse, voire d'annulation de subvention, quand on ne connaît pas du tout, c'est bien normal, ça paraît pas du tout conséquent. Alors qu'en réalité, pour les Pays de la Loire, ça veut dire que plusieurs festivals vont probablement fermer du jour au lendemain. Ça veut dire plusieurs dizaines de personnes, voire centaines, qui vont être au chômage du jour au lendemain, qui vont perdre leur emploi. Et ça veut dire aussi une culture qui va perdre sa diversité et qui va arriver sur une monoculture, probablement, avec des gros pontes culturelles ou plutôt de divertissement qui vont pouvoir avoir un monopole. Alors, sans avoir aucune animosité contre les gros acteurs culturels du divertissement et de la culture, puisque ça contribue à la diversité. Ce qui est simplement dangereux, c'est à partir du moment où une personne commence à avoir un monopole et qu'il n'y a plus du tout de visibilité, de propositions différentes. Donc pour moi, c'est ça l'enjeu principal de ce collectif sous les écrans de la Dèche, au moins au niveau du public. Et puis l'autre enjeu de ce collectif, mais qui là est plus poussé peut-être au niveau des termes, etc. C'est plus au niveau politique d'essayer de travailler avec les collectivités pour qu'il y ait des évolutions. Il y a des échanges qui ont lieu entre les représentants des salariés, les employeurs et puis les collectivités. Donc ça, c'est chouette de voir que ça commence à bouger et que... Exactement, qu'il commence à y avoir des dialogues qui sont ouverts. Ça, c'est assez agréable et rassurant de voir que certaines régions, certains départements, certaines municipalités ont bien conscience et prennent à cœur le fait d'écouter les acteurs de la culture en France. C'est quand même quelque chose qui nous fait du bien et nous conforte dans le fait qu'on ne parle pas dans le vide.
C'est un peu la quadrature du cercle, parce qu'on sait que des festivals ne sont pas riches, que les financements sont précaires. Et est-ce qu'on avance vers une précarisation généralisée de la culture, parce que et aussi la culture a l'habitude d'être très subventionnée. Est-ce que c'est juste ça?
Pour le moment, oui. On part plutôt sur une... Je dirais pas sur une précarisation de la culture, puisque ça inclurait qu'elle soit déjà dans un état plutôt stable alors qu'elle est déjà plutôt précaire. C'est plutôt une pérennisation de la précarisation de la culture, malheureusement.
C'est sur ces propos un peu pessimistes que nous allons nous séparer. Théo, je vous dis bon courage, bon festival et vive Traveling.
Back in town, you better tell them too.
KJ Johansson a retrouvé donc le 9 février à Rennes pour le festival Travelling. La programmation s'annonce des plus excitantes sur ce festival qui se consacre cette année, en une partie en tout cas, eh bien, à la ville de Stockholm et au cinéma suédois. Retrouvez toutes les infos sur clairobscur.info. Nous retrouverons un autre participant au festival, encore une fois interrogé par Soisig Le Bay. Mais on la retrouve dans un instant, Soisig, puisque c'est Bouquet Garni numéro 14. C'est mercredi, et comme tous les mercredis, dans le Grand Tour, on retrouve Soisig Le Bay. Salut Soisig.
Salut Yann.
Qui nous parlera bouquin, évidemment, bouquet garni aujourd'hui. Alors c'est pas un poche, c'est pas forcément dédié au jeune public, c'est eh bien une sortie récente, ou plus ou moins récente, ce Coyote par Sylvain Prudhomme, paru aux éditions de Minuit.
Il est court comme un poche. Commandé par la revue America, le projet de Sylvain Prudhomme, faire en stop le trajet d'ouest en est, de Otay à Matamoros, le long de la frontière mexicaine. Le long du mur construit sous le premier mandat de Donald Trump. Aux États-Unis, le stop n'existe pas, et c'est donc une aventure que va tenter l'auteur. Mais ce n'est pas vraiment un récit de voyage. Il a choisi de donner la parole aux automobilistes qui le prennent en charge. Retranscription du dialogue, sans mise en forme apparente. Chaque trajet est noté avec le point de départ, le kilométrage accompli, le prénom du conducteur et une photo Polaroid. L'auteur ponctue ses rencontres par des impressions personnelles sur les paysages, la nourriture, la différence d'ambiance entre le sud des États-Unis et le nord du Mexique, des pensées flottantes durant des heures d'attente sous un soleil ardent. Alors pourquoi le titre Coyote, au Mexique et en Amérique centrale? C'est une personne qui se charge de faire passer clandestinement la frontière à des migrants et contre rémunération. Rémunération qui dépend de la prestation. Lâchage en plein désert, sitôt la frontière passée, accompagnement jusqu'à la ville, mise en sécurité, le tarif change. Des passeurs, quoi. Sylvain Prudhomme fait des va-et-vient entre les deux pays par les points de passage, son passeport le lui permet, lui. Côté USA, la présence de la police est omniprésente, les patrouilles armées circulent tout le temps. Côté Mexique, l'ambiance est plus joyeuse, marché avec nourriture abondante, animation dans les rues. Nombreux sont les Mexicains qui travaillent au-delà de la frontière et qui se lèvent à l'aurore et rentrent tard le soir puisqu'ils n'ont pas le droit de rester aux États-Unis. Ils construisent des maisons, même les maisons des Border Patrol, qui les chasseront ensuite. Les trajets avec Sylvain sont parfois courts, moins de 20 km, parfois plus longs. Mais c'est à chaque fois l'occasion de bavarder en anglais, en espagnol ou un peu des deux. Les Mexicains prennent plus volontiers les autostoppeurs. Juan, Luis, Jos, Mauricio, tous travaillent. Tous sont sensibles au paysage qui défile. Aucun ne se plaint. Ils sont très lucides quant à l'inutilité du mur qui n'empêchera jamais les passages. Qui les rend juste plus compliqués, plus chers. Et le trafic est juteux. En 10 jours de stop, 18 Mexicains ont aidé l'auteur, un seul blanc américain, pas une seule femme. Alors ce texte au court paragraphe dessine en filigrane le portrait des frontaliers de la situation américaine qui se prive d'une main-d'œuvre prête à payer des impôts en échange de la green card. 16 millions d'irréguliers dans le sud des États-Unis. Plus légèrement, c'est l'occasion aussi pour l'auteur d'évoquer ses souvenirs cinématographiques au fil des paysages, Paris-Texas. Et son voyage est peut-être proche de celui de Harry Dean Stanton. Le motel Del Rio, ça vous dit quelque chose? C'est là qu'ont été tournées les séquences de No Country for the Old Men avec Josh Brolin et Javier Bardem, une belle tuerie sanglante. À hauteur d'hommes et de femmes ordinaires qui vivent la frontière tous les jours, ce livre est une invitation à voyager autrement. Sylvain Prudhomme, né en 1979, c'est un écrivain français. Il est l'auteur de romans et beaucoup de reportages, dont plusieurs ont pour cadre l'Afrique où il a vécu longtemps.
On ne fera plus du stop de la même façon, sans doute, après avoir lu Sylvain Prudhomme et son Coyote aux éditions de Minuit. Merci Soizig, à bientôt pour nous parler bouquins à nouveau dans Le Grand Tout.
À bientôt.
La musique d'illustration de ce bouquet garni numéro 14 par Soizig Le Bay, eh bien, c'était les excellents, les extraordinaires Hermanos Gutiérrez avec ce titre El Camino de mi alma. La session info-concert de l'émission Le Grand Tout aujourd'hui sera une session danse et musique grâce au Tombé de la Nuit qui dimanche 26 janvier propose avec le festival Waterproof Save the Last Dance for Me d'Alessandro Chiaroni, un chorégraphe italien qui nous permettra eh bien, de découvrir tout simplement la polka chinata, une danse populaire carrément acrobatique. Elle est née à Bologne au début du XXe siècle et puis elle a failli disparaître parce que lorsque l'artiste italien la découvre en 2018, elle va peut-être conserver une poignée de personnes seulement. C'est une danse de séduction originellement interprétée par deux hommes, ou peut-être ça nous envoie du côté de l'Argentine et du côté du tango, mais en tout cas Giancarlo Stagni, hein, qui est maître à danser, chaque lundi pendant 6 mois a transmis les secrets de la polka chinata aux deux interprètes du spectacle, Gian Maria Borzio et John Van Francesco Giannini. Et vous retrouverez ce spectacle Save the Last Dance for Me à la Halle Saint-Hélier dimanche 26 janvier à 2 reprises, 16h pour la première représentation, puis 18h. On écoute un extrait de la bande originale de ce spectacle-là. C'est Aurora Bauza et Pere Giu qui donnent ce titre Save the Last Dance for Me. Toutes les infos sur lestombeesdelanuit.com. C'était la bande-son d'un spectacle de danse que vous pourrez retrouver dimanche 26 janvier. Ce sera à la Halle Saint-Hélier qu'il sera proposé ce spectacle par Waterproof, accompagné par Les Tombées de la Nuit, un spectacle intitulé Save the Last Dance for Me d'Alessandro Sciaroni. On termine l'émission avec encore une fois des extraits de nos deux albums découvertes Ferrarock cette semaine. La Suisse Aino Salto avec un extrait de son album Imagine People as Adolescent Birds, un bel ensemble jazz et pop, oui c'est assez étonnant. Et puis on entendra après le côté plus ferrailleur, plus électrique, plus proche de Pavement ou Sonic Youth, du groupe qu'ils adorent. Ce seront les Murder's Law avec le titre Female Intrusion, mais pour l'instant voici Anger par Aino Salto. On se retrouve jeudi dans une émission qui cette fois-ci ne sera peut-être pas réalisée en direct du studio numéro 202 de la Maison des Associations, mais on verra bien. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Jump card shuffle and we wait. Realization came late. I carry myself in the palm of my hand. Jump card shuffle, the scene comes to a halt. She was crying in the bathroom, now she's out in the hall. Life goes on, but with ants in my fingers. Two stupid kids, but the memory lingers. We must have been
again.